do some think I'm sick. You see, son, what got to say?
Nous lirons quelques passages dans la parole de Dieu. D'abord, dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Que votre cœur, c'est Jésus qui parle à ses disciples, que votre cœur ne soit pas troublé. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. La première épître à Timothée. Cette parole est certaine et digne d'être pleinement reçu. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Un peu plus loin, le médiateur entre Dieu et les hommes, est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Corinthiens, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Chers amis, le livre dont nous avons lu quelques extraits bien courts n'est pas comme les autres livres. C'est le livre de Dieu. C'est le livre par lequel Dieu nous dit ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fera, et aussi ce que nous sommes. Il vaut la peine d'écouter Dieu lorsqu'il parle. Nous passons des heures et des heures à écouter des paroles vaines des hommes. N'écouterions-nous pas Dieu lui-même ? Avoir une Bible entre ses mains, chers amis, ou l'avoir dans sa maison, même dans un tiroir, c'est une chose solennelle. Dieu parle, il faut savoir ce qu'il nous dit. Dans les versets que nous avons lus, en ce chapitre 14 de l'évangile de Jean, c'est le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, qui parle à ses disciples. Il leur annonce une nouvelle qui les attriste beaucoup. Il s'en va. Il va les quitter et remonter vers son Père dans la gloire. Nous comprenons la tristesse de ses disciples. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Ils l'avaient suivi fidèlement pendant longtemps. Ils espéraient qu'il établirait son royaume et qu'ainsi il serait libéré de la domination romaine. Rien. Il s'en va. Il les laisse dans un monde hostile qui ne veut pas de Dieu. C'est le même que celui que nous connaissons aujourd'hui. Le monde n'a pas changé, mais Dieu non plus. Alors le Seigneur Jésus leur dit tout de suite, que votre cœur ne soit pas troublé. Je comprends votre tristesse, mais ne soyez pas troublés. Pourquoi ? Ah, parce que là où je vais, je veux que vous soyez aussi. Chers amis, il faut nous arrêter. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Des hommes dans le ciel, des hommes pécheurs, coupables, introduits dans le ciel, est-ce possible ? Nous serions tentés de dire, Seigneur, non, ce n'est pas possible. Avec le fardeau de péché qui pèse sur nos consciences, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Ésaïe n'a-t-il pas dit, à la fin de son livre, vos iniquités ont fait séparation entre Dieu et vous. 800 ans après, environ, l'apôtre Paul confirme la même parole. Tous, les hommes, tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Le ciel nous est donc fermé. Point d'espoir de salut. Qui nous délivrera de ce fardeau de péché ? Nous, impossible. Impossible. Nous pourrons multiplier nos œuvres de charité, les meilleures, les plus méritoires. Elles ne seront jamais des œuvres expiatoires. Cherchez le secours autour de nous, en vain. Nul homme ne peut racheter son frère. Nul homme. Nous sommes obligés de dire, comme l'infirme de Bethesda, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider, personne. La plus tendre mère ne peut pas sauver son enfant. Le prêtre le plus dévoué, ne peut pas effacer un seul péché qui lui sont confessés, un seul. Il ne peut même pas l'effacer. Il ne peut même pas effacer les siens. Mais alors le Seigneur continue. Vous ne pouvez rien. Vous êtes condamnés. Vous êtes coupables parce que tous vos péchés accumulés, ce fardeau qui pèse chaque jour davantage, vous ne pouvez pas obtenir le pardon. Mais, arrêtons-nous. Je vais vous préparer une place. Quoi? Quelqu'un, Jésus, va nous préparer une place? Chers amis, il convient de s'arrêter un moment là-dessus. Une place pour nous dans le ciel? Une place qui nous est attribuée déjà? Mais comment et où le Seigneur Jésus pourra-t-il nous acquérir cette place, payer pour nous cette place? Où? À la croix. Et nous allons à la croix. Oh, chers amis, à la croix, il se passe quelque chose unique dans l'histoire du temps. Une œuvre va être accomplie que personne avant lui n'avait accompli et que personne jamais n'aurait pu accomplir. Le Seigneur Jésus est là, approchant de la croix. Et ce qu'il veut, c'est prendre lui qui est saint et juste, lui qui est comme l'agneau pascal, sans défaut et sans tache. Il se tourne vers son Dieu, le Dieu saint, le Dieu juste, et dit, je prends leurs péchés, les péchés de tous ceux qui se confieront en moi, je les prends à ma charge, je les prends comme s'ils étaient miens. Savez-vous ce que Dieu lui a répondu? Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Il faut la mort pour que nous ayons la vie. Il faut que Christ entre dans la mort pour que nous, nous entrions dans la gloire. Va-t-il accepter? Oui. Il s'est laissé clouer sur une croix. Mais les clous enfoncés dans sa chair étaient bien moins douloureux que l'abandon qu'il a connu de la part de son Dieu. Écoutez-le. Il s'exprima prophétiquement dans le psaume 22. Nos pères, dit-il, se sont confiés en toi et tu les as délivrés. Mais moi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, c'est nous qui donnons la réponse. C'était pour nous. C'était pour nous. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, lui dit, le Christ, il y a un seul médiateur. N'en cherchez pas d'autre. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est l'homme, Christ, Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est lui qui a payé notre dette. C'est lui qui a subi le jugement que nous méritions. Vous croyez que vous ne lui devez rien, chers amis? Que faut-il donc faire maintenant? Quels sont ceux qui seront sauvés? L'apôtre Paul le dira aux Corinthiens. Il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Il ne dit pas les riches, il ne dit pas les savants, et nous le bénissons de ce qui n'est pas choisi ceux-là. Il a choisi ceux qui croient, mettant le salut à la portée de tout le monde. Il n'y a personne ici qui dise, le salut, c'est trop difficile pour moi. Personne ne peut le dire. Vous pouvez ne pas croire, mais vous ne justifierez pas votre incrédulité. C'est impossible. Il faut croire au Seigneur Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. Nous ne voudrions pas que quelqu'un puisse dire, expliquez-nous bien, et dites-nous bien ce qu'il faut faire pour être sauvé, car c'est là la grande question. Oh, chers amis, je suis persuadé que peut-être la plupart d'entre nous, tous peut-être, nous sommes sauvés. Mais nous aimons parler de ce grand salut. L'oublierions-nous? C'est impossible. Le Seigneur Jésus s'est donné en rançon pour tous. Il n'a pas choisi les uns ou les autres. Il offre un salut à quiconque croit. Mais j'entends quelqu'un qui dira, si Paul dit à Timothée, il s'est livré en rançon pour tous, c'est que nous sommes tous sauvés. En rançon, il s'est donné, en rançon, vous dites bien, nous lisons bien, pour tous. Nous sommes donc tous sauvés. Non, le salut n'est pas universel. Le salut est individuel. Il faut que chacun vienne aux pieds de Jésus, confesse son péché. Non seulement son péché, je dirais, c'est relativement facile de dire qu'on est un pécheur. Il ne faut pas retourner bien loin dans sa vie pour trouver le péché, au moins chez moi. Mais il faut reconnaître qu'on est coupable devant Dieu, parce que tout péché est une offense à Dieu. Nous sommes pécheurs, nous sommes coupables, nous méritons le jugement de Dieu, et Christ l'a subi à notre place. Il est mort pour nous. Je termine, chers amis. Il y aurait beaucoup à dire encore. Même si nous suivions notre passage, il y a une autre promesse. Quel Dieu que notre Dieu. Une autre promesse bien bénie. C'est qu'il va venir nous chercher, le Seigneur Jésus. Nous, croyants. Il n'enverra pas un ange. Il viendra lui-même. Nous allons le voir bientôt. Sur la nue, il appellera tous ses rachetés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, les vivants seront transmués, croyants vivants, et nous partirons à sa rencontre en l'air, et il nous introduira dans la maison du Père. Oh, je l'entends, chers amis, nous présentant à son Père, arrivé sur le seuil de la maison, et lui disant, Père, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Je n'en ai perdu aucun. Quelqu'un dira peut-être encore, et ceux qui n'ont pas cru, qu'arrivera-t-il à celui qui ne croit pas, qui est mort dans ses péchés, dans l'incrédulité, ou qui est trouvé vivant et incrédule? Qu'arrivera-t-il à celui-là? Eh bien, chers amis, lisez, vous trouverez la réponse dans ce même évangile de Jean, à la fin du chapitre 3. Mais je voudrais bien qu'avant d'arriver à ce dernier verset, vous vous arrêtiez sur le verset central. Parce que Dieu, avant d'annoncer le jugement mérité à celui qui ne croit pas, il présente encore sa grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas. J'aimerais mieux que vous le lisiez vous-même. Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie. Mais, chose extrêmement sérieuse, et qui doit faire réfléchir toute âme qui ne connaît pas le Seigneur, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh, nous vous en supplions. Le temps y court. Le jour de la grâce touche à sa fin. N'attendez pas. Vous êtes entrés dans cette salle peut-être avec vos péchés. Vous pouvez en sortir libérés du péché, sauvés par la grâce de Dieu. C'est le souhait de tous nos cœurs.
Yes, Jésus, Jésus. Thank you. Encore trois courts passages de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10 et au verset 17. Et comme Jésus sortait sur la route, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda : Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle ? Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon sinon un seul Dieu. Tu sais les commandements, ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et répondant, il lui dit, « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, « Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. » Et lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10 et au verset 25. Et voici un docteur de la loi se leva pour l'éprouver, pour éprouver Jésus, pour le mettre à l'épreuve, et dit, « Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? » Et répondant, il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, lui-même dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus répondant, dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi l'ayant dépouillé, l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et le voyant, passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi, un lévite étant arrivé à cet endroit, s'en vint, et le voyant, passa outre de l'autre côté. Mais un samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant fut ému de compassion, et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie, et eut soin de lui. » Et le lendemain, s'en allant, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier, et lui dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs ?» Et il dit, « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Encore un court passage dans cet évangile, au chapitre 23, verset 33. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Donc, il s'agit bien du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, qu'on a crucifié. verset 39. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre répondant le reprit, disant, « Et tu ne crains pas Dieu, toi? Car tu es sous le même jugement, et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui ne devait se faire. Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce qu'il y a de commun à ces trois personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus, c'est qu'elles se sont inquiétées de l'au-delà. Les deux premières personnes sont des personnes religieuses qui demandent à Jésus ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. La troisième personne est un pauvre malfaiteur qui vit ses dernières heures sur la terre et qui se soucie aussi de son avenir éternel. C'est donc bien d'une question importante de se souvenir de s'inquiéter de son avenir éternel. Et cette question est posée encore ce soir. Où passeras-tu l'éternité? Est-ce dans ce lieu béni dont nous venons de parler, la maison du Père, le paradis? Ou est-ce loin de Dieu pour toujours, dans le remords éternel, d'avoir méprisé la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et le sacrifice du Seigneur Jésus? Alors cette autre question sera posée un jour par Dieu lui-même. Qu'as-tu fait de mon Fils, de celui que je t'ai envoyé par amour pour te sauver? Il y a des multitudes qui ne s'inquiètent pas de leur avenir éternel. On rencontre beaucoup de personnes qui nous disent « Après la mort, tout est fini. » Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était aussi sûr dans son esprit de ce qu'il disait. Parce qu'en général, en peu de mots, les hommes se fourvoient. C'est pour ça qu'un jour, un homme, un incrédule, qui a dit « Après la mort, tout est fini. » J'ai tout préparé, voyez. Je vais me faire incinérer et dans la suite, j'ai même dit que je voulais qu'il y ait un hélicoptère qui répande mes cendres dans la vallée. Mais, pourquoi se donner tant de peine puisque tout est fini après la mort? Est-ce que c'est possible? L'âme retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le corps retourne à la terre. C'est trop tard une fois qu'on se fait brûler. C'est trop tard. C'est trop tard, trop tard, trop tard. Après la mort, tout est fini. C'est sur la terre qu'on peut se mettre en règle avec Dieu. C'est pour cette raison que notre passage sur la terre est d'une extrême importance, parce que c'est là que nous décidons de notre avenir éternel. Le Seigneur Jésus a dit, « Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Mais comment venons-nous à Jésus? Est-ce que nous venons comme ce premier homme qui avait aux yeux, ce jeune homme-là, aux yeux des hommes, il avait une conduite très honorable. Il pratiquait sa religion très fidèlement et pourtant il n'était pas sûr de son salut. N'est-ce pas? On ne pratique pas une religion pour être sauvé. On pratique une religion parce qu'on est sauvé. Et qu'on vienne à la présence du Seigneur, pour être avec lui, pour l'adorer, pour le remercier. Et vous voyez, on peut tromper les hommes, on peut avoir une très belle apparence aux yeux des hommes, mais Dieu connaît nos cœurs. Et ce jeune homme avait une idole dans son cœur. Et peut-être que nous avons aussi une idole. Peut-être que les jeunes qui sont ici, ils ont aussi une idole cachée que le Seigneur connaît. Peut-être qu'aux yeux de leurs parents, ils sont très honorables. C'est des gentils jeunes gens, des gentilles jeunes filles. Quelle est cette idole cachée? Le Seigneur la connaît. Venez vers Jésus. Confessez-lui vos péchés. C'est lui seul qui peut vous délivrer. Le second homme, C'est un homme qui a une grande connaissance, n'est-ce pas? C'est un docteur de la loi. Aujourd'hui, on dirait que c'est un homme d'église, n'est-ce pas? Mais de quelle manière vient-il au Seigneur? D'abord, il vient au Seigneur pour l'éprouver. Et puis ensuite, il veut se justifier. Alors, si vous voulez vous approcher du Seigneur dans cette condition, alors il n'y a pas d'espoir pour vous. Si vous voulez lire la parole de Dieu pour la juger, vous n'en recevrez rien du tout. Mais si vous lisez la parole avec humilité et pour trouver la vérité, Dieu se révélera. Il y a des multitudes de personnes qui sont venues au Seigneur Jésus sans intermédiaire, simplement en lisant la parole de Dieu. Eh bien, le Seigneur va lui donner une leçon très salutaire. Il demande qui est son prochain, n'est-ce pas? Il lui dit qu'il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il est tombé entre les mains des voleurs. Eh bien, c'est la situation de tout homme, chers amis, qui est descendu du lieu de la bénédiction plus bas que c'est possible de descendre. Toute créature, tout homme, toute femme, comme créature de Dieu, avait la responsabilité de vivre selon la volonté de Dieu qui était de bénir l'homme. Mais l'homme a mieux aimé écouter la voix du tentateur, de l'ennemi, que d'écouter la voix de Dieu. Et de nos jours, c'est la même chose. On dit quoi? Dieu a dit? On met en doute la parole de Dieu. Et c'est ainsi que l'homme a créé sa propre misère, qu'il a amené le monde dans l'état où il est aujourd'hui, chers amis, dans la misère. Il y a des multitudes sous les visages qui sont peut-être assez respectables, des multitudes qui sont dans la misère, comme cet homme qui est tombé entre les mains des voleurs. Que de misère dans ce monde! Eh bien, qui est mon prochain? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire à cet homme qui a dit « Qui est mon prochain ?» Eh bien, ce Samaritain, cet homme méprisé, c'est l'image du Seigneur Jésus, qui était cet homme méprisé, qu'on a rejeté, on s'est moqué de lui. « Qui est mon prochain ? Celui qui est venu tout près de moi pour me secourir. » La religion, qu'est-ce qu'elle a fait ? Le Lévite a passé près de ce pauvre homme, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il pouvait demander ? Demander un sacrifice, le Lévite, là, ce docteur, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ce pauvre homme ? Lui dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, pauvre homme. Ce n'est pas la religion qui nous sauve, c'est un sauveur qui est venu, notre prochain, tout près de nous. Et ce que Jésus a voulu dire à cet homme, ton prochain, celui qui est venu tout près de toi, c'est Jésus. Laisse-toi aimer, laisse ouvrir ta plaie, c'est lui qui peut seul la guérir. C'est lui qui peut te délivrer, te relever, te prendre en charge. Jusqu'à ce qu'il vienne pour t'introduire là où il n'y aura plus de maux, plus de misère. Vous savez, l'évangile qu'on présente n'est pas un évangile de prospérité. On ne dit pas « Venez au Seigneur et tout ira bien pour vous ». Non, le Seigneur nous accepte tel que nous sommes et nous acceptons de suivre le Seigneur tel qu'il le voudra, mais c'est un sauveur plein d'amour. Le dernier de ces hommes passe ses dernières heures et lui, il n'est pas un homme religieux. Il n'a rien à faire valoir. Et voilà ce que Dieu attend de chacun de nous, chers amis. Il reconnaît sa culpabilité. Alors que l'autre malfaiteur est en train d'injurier le Seigneur, voyez, on n'a rien ménagé d'opprobre et de honte pour notre Seigneur, pour le Fils de Dieu. On a encore bien réussi à mettre deux malfaiteurs de chaque côté. Il y en a un qui se repent. Il dit, nous sommes ici justement. On mérite le jugement. Il adresse cette parole au Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Il reconnaît que celui qui est là, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il confesse son état, il se remet au Seigneur. Et il entend cette parole merveilleuse, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est là la grâce de Dieu, chers amis. Le seul moyen de nous approcher de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'amour, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers des êtres qui n'en sont pas dignes, des êtres haïssables, qui ne peuvent pas se pardonner, qui sont pleins d'orgueil. Et c'est pour ceux-là que la grâce est venue, ceux qui confessent ses péchés. Voilà l'Évangile. Il est le même qui était prêché il y a 2000 ans. Repentez-vous, reconnaissez-vous pécheurs devant Dieu, acceptez le Sauveur que Dieu vous a donné. L'amour de Dieu a donné son Fils unique. Mais si Dieu est amour, Dieu est juste. Il ne peut pas passer par-dessus le péché sans le punir. Voyez, si un homme d'État fait grâce à un malfaiteur, il est obligé de mettre de côté la justice de Dieu. Mais Dieu ne peut pas mettre de côté sa justice. C'est pour cette raison, on l'a rappelé tout à l'heure, que Dieu a condamné mes péchés parce que le Seigneur Jésus les a pris sur lui. C'est le Seigneur qui a payé le prix, qui a souffert pour mes péchés, qui a supporté le jugement de Dieu contre mes péchés. Et si le Seigneur a payé pour moi, Dieu ne me redemandera jamais des comptes. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est là la grâce de Dieu, c'est là l'amour de Dieu, c'est le salut que Dieu offre gratuitement encore aujourd'hui à quiconque se reconnaît pécheur et accepte le Seigneur Jésus pour son Sauveur.
Un mot, un seul. Ce mot, c'est certainement. Bien sûr, je sais, aujourd'hui, ce mot certainement a perdu beaucoup de sa valeur. Il a presque le sens de peut-être. Lorsque je dis à quelqu'un, tu es malade, c'est une affirmation péremptoire. Mais si je dis à quelqu'un, tu es certainement malade, ça veut dire que j'en suis pas tout à fait sûr. Mais lorsque dans ce livre, la Bible, qui est la parole de Dieu, Dieu dit certainement, ce sont des affirmations certaines dans lesquelles Dieu s'engage. Alors, ce mot, nous allons le prendre dans 4 versets. Il y en a un qu'on nous a cité tout à l'heure. Nous allons prendre d'abord dans la Genèse, c'est très court. Genèse au chapitre 2 et au verset 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Quelqu'un a dit que dans toutes les civilisations, sous toutes les latitudes, dans tous les temps, il y a quelque chose qu'on trouvait toujours. Ce sont des prisons et des cimetières. Et même si quelqu'un ici n'attache pas beaucoup de crédit à ce livre, la Bible, eh bien, il est bien obligé de reconnaître que le verset que nous avons lu se vérifie sans aucune exception. Tu mourras certainement. Peut-être, d'une manière sûre. Oh, le compte à rebours a commencé pour nous tous. Il est plus ou moins long, mais personne ne peut arrêter ce compte à rebours. Et vous êtes engagé, vous aussi, dans un compte à rebours jusqu'au zéro, jusqu'à ce que se vérifie pour vous aussi ce verset, tu mourras certainement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, dans des problèmes sociaux qui ont agité notre pays, il y a un mot qui est sorti, qui était sur les pancartes en rouge souvent, qu'on a promené dans la ville, à Paris et puis en province, ce mot c'était précarité. Ah, on n'en veut pas de la précarité. Et un collègue m'a mis sous le nez quelque chose qu'il avait trouvé sur Internet et où il y avait marqué quelqu'un qui n'était pas un croyant, qui disait mais la précarité, elle est partout, elle dépend d'un petit vaisseau qui est dans vos têtes, elle dépend de tant d'aléas que nous ne pouvons pas. Et alors, dans ce que cette personne écrivait, disait, mais vous voulez des certitudes? Il y a une certitude quant à l'avenir, alors que personne ne sait ce qui va arriver. Demain, personne ne le sait. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez mourir. Ce n'est pas un croyant qui a dit ça. Tu mourras certainement. Deuxième certainement que nous trouvons, on le trouvera dans le psaume 39. Nous pouvons le lire, psaume 39. Psaume 39 au verset 6. Certainement, l'homme se promène parmi ce qui n'a que l'apparence. Certainement, il s'agit en vain. Oh, la devanture est belle. La vitrine est soignée. On présente les choses comme dans un théâtre où tout est éblouissant, luxuriant, mais il m'est arrivé de rentrer une fois dans un magasin en liquidation. Alors sur le devant, c'est très beau, et puis comme ces gens étaient pressés de liquider, eh bien ils avaient déjà enlevé un petit peu les panneaux, vous savez, les panneaux, et puis on voyait derrière, c'est-à-dire vous aviez quelque chose de brillant sous des spots, et puis il y avait un centimètre et demi au grand maximum, et puis derrière, et puis quand on y mettait le nez, qu'est-ce qu'on voyait ? Tous ces cahiers, il y avait du plâtras, des plâtras par terre, le mur était... Il y avait un désordre extraordinaire. Alors vous direz, pour un magasin, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave, c'est du matériel. Mais ce qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est quand ce sont des personnes, et vous peut-être que vous masquez, en effet, derrière une apparence d'être bien. Ça va bien. Et puis derrière... Une angoisse, des problèmes insurmontables. Je pense aussi encore à un collègue, mais quand il est là, mais il fait rire tout le monde. C'est quelqu'un d'extrêmement jovial, quelqu'un de... Et puis, l'autre jour, où est-ce qu'il est passé, Thierry ? Thierry ? Ah ben non, il est à l'hôpital. Tentative de suicide. L'homme se promène parmi ce qui n'a que l'apparence, il s'agite en vain. Peut-être que vous agitez beaucoup, peut-être que vous cherchez à remplir votre vie pour avoir une vie bien remplie. Bien remplie ? Bien ? Quand on dit bien, ça veut dire beaucoup. Vous faites peut-être beaucoup de choses dans votre vie. Vous agitez en vain. Et bien, c'est aussi qualitatif. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre vie ? Est-ce que vous avez mis des choses essentielles ou bien est-ce que vous vous étourdissez à passer d'une chose à l'autre, d'une convoitise à l'autre, d'une joie à l'autre, d'un plaisir à l'autre ? L'homme se promène parmi ce qui n'a que l'apparence. La vitrine est belle, mais derrière, il y a du sang. Il y a du sang. Le sang de celui qu'on a mis à mort. Le sang de Christ. Nous allons prendre un troisième verset où nous avons le mot certainement et nous le prendrons dans Ésaïe 53. Et demande à tout le monde la plus grande attention pour ce verset qui est extrêmement solennel. Ésaïe 53, verset 4. Certainement, lui, a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Là, une affirmation certaine. Un jour dans ce monde est venu quelqu'un qui vous aimait plus que sa vie, quelqu'un qui n'avait pas connu ni commis de péché et qui est venu à cause de ce péché qui nous atteint tous. Il n'y a pas eu un homme qui ne soit pas un pécheur à part lui, et c'est justement lui qui s'est chargé de nos péchés. Nous sommes chargés. On dira, oh, je suis chargé, j'ai des soucis. Vous en avez, nous avons tous nos soucis, mais vous ne savez peut-être pas où les décharger. Eh bien, lui a porté nos langueurs, nos douleurs, nos péchés. Il est allé jusqu'à la croix. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Celui qui vous a aimé plus que sa vie se présente encore à vous, avec ce grand salut. Il vous le tend de ses mains percées, de ces mains qu'on a percées lorsqu'on l'a cloué, voilà 2000 ans, sur une croix, lorsque celui qui est venu apporter tant de bonté a eu à faire une telle haine. Nous sommes quelquefois impressionnés par ce qu'il y a de sanguinaire dans notre monde. Il n'y a pas de chose plus choquante que d'avoir mis sur la croix le Seigneur Jésus. Mais il est vivant. Aujourd'hui encore, il se présente avec ses mains percées, son côté percé, ses pieds percés, en disant « Voilà jusqu'où je t'ai aimé, voilà ce que j'ai fait pour toi. » Et quand le Seigneur Jésus était sur la croix, il a pensé à chacun de nous. Vous auriez été tout seul, le seul pécheur. Eh bien, Christ vous a suffisamment aimé pour aller à la croix, pour vous sauver. Oh, la plus grande chose qui soit, qui est importante dans votre vie, ce n'est pas les grandes choses que vous proposez de faire, ce ne sont pas les projets que vous caressez. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, jour de grâce, jour de la patience de Dieu, Dieu qui vous présente encore ce salut, que vous puissiez l'accepter. Et puis nous allons venir toujours avec ce seul mot, certainement, eh bien nous allons prendre ce passage qui nous a été lu tout à l'heure dans la première épître à Timothée. Vous me direz, c'est pas tout à fait certainement, mais il faut avouer que c'est, la phrase est tournée autrement, mais que nous avons le mot certaine. Cette parole, verset 15 du premier chapitre de la première épître à Timothée, cette parole est certaine. Dieu s'engage. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, d'être entièrement acceptée. Que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et nous sommes tous pécheurs. Peut-être quelqu'un dira ici, moi, oui, bien sûr, mais je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas perdu. Alors ça, c'est ennuyeux. Alors ça, c'est très, très ennuyeux. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour les pécheurs. Et si vous ne réalisez pas que vous êtes un pécheur, si vous ne réalisez pas que vous êtes perdu, Christ n'est pas venu pour vous. Et si vous pensez aller au ciel, vous pensez aller au ciel. Vous pensez aller au ciel alors que vous n'êtes pas un pécheur. C'est très ennuyeux. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous serez dans le ciel, si vous y arriviez, eh bien vous pourriez dire, vous direz quoi au ciel ? Vous direz, ben gloire à mon honnêteté, gloire à ma justice, gloire à tout ce que j'ai fait. Mais vous ne pouvez pas vous accorder avec ce que tous les autres diront. Que diront les autres ? Ils diront gloire à Christ, gloire à notre Sauveur. Gloire à celui qui nous a aimés jusqu'à la croix. Gloire à celui qui est mort pour nous sauver et pour nous préparer cette place dans le ciel dont nous avons parlé tout à l'heure. Aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui, Dieu s'engage encore dans le salut. Cette parole est certaine. C'est Dieu qui s'engage. Cette parole est certaine et digne d'être entièrement acceptée, entièrement crue. Encore un mot, je m'arrête. J'ai assisté à un cours d'un professeur de psychologie. Et puis, ce professeur a voulu définir ce que c'était la foi, le pauvre homme. Le pauvre homme, définir quelque chose qu'il ne savait pas. Il a dit, mais la foi, c'est, vous savez, ces gens qui sont là, dans des lieux de culte, ils en sortent, et puis, ils se sont imaginés que ce serait tellement bien si Dieu existait, et que ce serait tellement bien que Dieu les aime, qu'ils ont fini par le croire. C'est ça, la foi ? Ça, c'est de la croyance. Ça, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi ? La foi, ce n'est pas un saut dans le vide, ce n'est pas foncer dans le brouillard. Non, la foi, ce n'est pas ça en aucun cas. La foi, c'est simplement croire, non pas des choses, des constructions de l'esprit humain, c'est croire tout simplement ce que Dieu nous donne. La foi ne s'appuie pas sur du vide. La foi s'appuie sur ce que Dieu déclare. Or, Dieu non seulement déclare des choses, mais il s'engage dans des choses en disant « Cette parole est certaine et digne, et vous êtes invité à l'accepter aussi ce soir, aujourd'hui, dans cette soirée, encore ce jour de gloire, demain nous ne savons pas. » Eh bien, Dieu s'engage à vous d'accepter par la foi. Oh, peut-être que vous avez quelque chose qui vous empêche de croire. On a en particulier tous notre petit ordinateur personnel dans notre, c'est-à-dire notre cerveau. Dis, mais enfin, écoutez, aujourd'hui, vous allez quand même pas me dire que parce que un homme, il y en a eu des crucifix, parce qu'il y en a un qui a été crucifié, puis vous vous imaginez, oh, écoutez. Mais vous savez ce qui vous paraît être une folie. Quelqu'un disait à quelqu'un, à un autre qui lui présentait l'évangile, il lui a dit, mais ce que tu me dis, mais c'est une folie. Mais c'est une folie ce que tu me dis. Et l'autre lui a dit, oui, c'est une folie. C'est la folie de la prédication. C'est la folie de Dieu. Pour reprendre l'expression de la première épître aux Corinthiens, ce sont des choses qui dépassent l'esprit humain. C'est quelque chose que vous n'êtes pas invité à comprendre, parce que s'il fallait le comprendre, vous prendrez un tableau noir, on prendrait un bout de craie, on essayerait de vous expliquer les choses. Non, c'est quelque chose, on croit, du cœur. C'est dans votre cœur. Si vous réalisez que vous en avez besoin, selon ce que disait Tolstoï, Tolstoï disait, dans chaque être, il y a un grand vide. Un grand vide en forme de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir le vide de votre cœur. Si vous êtes venu parce que vous attendez quelque chose qui puisse nourrir votre intelligence, vous aider à raisonner, vous serez déçu. C'est votre cœur qui a besoin de recevoir cet évangile, de recevoir, non pas une théorie, recevoir une personne, celui qui vous aime, celui qui vous a aimé plus que sa vie, celui qui vous a aimé jusqu'à la mort, celui qui est né dans ce monde alors qu'on naît pour vivre. Il est né pour mourir, pour donner sa vie, pour que vous soyez éternellement sauvés. Oh, peut-être est-ce la dernière occasion. S'il y avait ici peut-être un enfant qui ne connaisse pas encore le Seigneur Jésus, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Il y a peut-être quelqu'un qui résiste. Vous pouvez empêcher Dieu de vous sauver, c'est vrai. Tout homme a ce pouvoir d'empêcher Dieu le sauver. Vous n'empêcherez pas Dieu de vous aimer. Personne ne vous a aimé comme il vous a aimé. Eh bien, répondez à son amour. Acceptez-le dans votre cœur comme celui qui pardonne, comme celui qui est le sauveur, comme celui qui désire entrer dans votre vie, pas pour un jour, mais pour toujours.
258. C'est comme je suis
Oh. me permette d'ajouter un verset dans le livre des Actes au chapitre 4. Au verset 12, « Et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Il nous faut être sauvés. On a vu tout à l'heure ce verset dans l'épître à Timothée, la première épître à Timothée, le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus. Il est le seul. On parle beaucoup de religion maintenant, mais la seule chose qui soit nécessaire, c'est de connaître Jésus. Il est le seul. Personne ne pouvait mourir pour nous, sauf le Christ. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont péché. On a cité ce verset du psaume. Personne ne peut en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Précieux est le rachat de leur âme. Il faut qu'il y renonce à jamais. La seule personne qui puisse nous approcher de Dieu, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Et pourquoi peut-il seul le faire? C'est qu'il était le seul juste, le seul qui soit sans péché. Dieu le Père l'a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai trouvé mon plaisir. Et puis, si nous prenons les évangiles, nous voyons que Pilate a dit de lui, c'est le témoignage d'un homme, mais Pilate a dit de lui, celui-ci, je ne trouve aucun crime en cet homme. Le brigand, le malfaiteur sur la croix a dit de lui, celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. Le centurion, quand il a vu comment Jésus était mort, a dit, certainement cet homme était juste. Il était le seul juste. Et c'est pour cela qu'il peut nous sauver et nous délivrer. Personne d'autre ne peut le faire. Jésus est le seul qui peut nous sauver et nous délivrer de la mort éternelle. Oui, on a insisté avec force sur ce salut que Dieu offre, et nous vous invitons tous. Tous ceux qui croient, qui ont accepté Jésus, invitent ceux qui, peut-être encore en ce jour, ne seraient pas sauvés ou ne seraient pas sûrs de leur salut, de venir à Jésus. Il est le seul qui puisse sauver.
Jean 8, 47, la première strophe, source féconde. Salut du monde, le sang de Christ est répandu.
147, premier verset.
Sauve.